La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, éduquer, instruire, élever. Ce mois consacré à l'éducation dans la philosophie de Jacques Maritain va se terminer avec une séance stéréo à partir de témoignages et de réflexions diverses. Je me souviens du slogan il y a 20 ans, 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Sentiment d'échec quant au contenu, on dit que le niveau baisse. Sentiment d'échec quant à la droiture morale, cette leçon de morale qui faisait l'ouverture de la classe dans les écoles de la Troisième République, avec ses proverbes, avec l'avènement des fables de La Fontaine. Est-ce que l'école arrive à un résultat? On peut en douter. On peut évoquer tout de suite les lignes de Victor Hugo, le grand auteur de la Troisième République, qui rêve d'un changement de civilisation par l'école, comme il l'écrit dans ce poème « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. » L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme, où rampe la raison, l'honnêteté périt. Est-ce une utopie de Victor Hugo, de la Troisième République? Victor Hugo, dans l'exergue des Misérables, pense au livre, à la puissance du livre, de la lecture, pour changer le monde. Or, l'atrophie de l'enfant par la nuit, la déréliction de la femme et l'injustice sont toujours là.
Si j'ai appris à écrire, c'est que j'ai souvent lu dans les feuilles de chêne et les plumes de pin. Si je sais parler aux belles, c'est que je sais bien comment font les tourterelles et les chauds lapins. Dans le trou de ma guitare, il y a comme un perdreau. Dans le fond de mes sabots, il y a comme un renard. Mais de mes années d'école, je n'ai rien gardé. Ce n'était que des paroles pour gâcher l'été. J'ai appris à ma manière que la liberté, c'est cracher dans la rivière ou dans le sentier. Ce peut que j'ai fait mes classes sur un églantier, que j'oublie ou que je ne sache pas très bien compter. Mais je sais tendre l'oreille et je sais rêver comme rêvent les corneilles et les peupliers. Si je sais plier bagage quand il en est un, c'est qu'avec les oies sauvages j'ai frayé longtemps. Mais de mes années d'école je n'ai rien gardé. Ce n'était que des paroles pour lâcher l'été. J'ai appris à ma manière que la liberté, c'est cracher dans la rivière ou dans le sentier. Si je chante bleu et rose, c'est que j'ai appris d'un rossignol pas morose qui était mon ami. Si je sais lécher en outre, je sais mordre aussi. Je l'ai appris d'une loutre et d'un saumon gris. Dans le trou de ma guitare, il y a comme un agneau. Dans le fond de mes sabots, il y a comme un renard. Mais de mes années d'école, je n'ai rien gardé. Ce n'était que des paroles pour gâcher l'été. J'ai appris à ma manière que la liberté, c'est de cracher dans la rivière ou dans le sentier. Quand j'aurai tenu parole et bien gagné ma vie, quand j'aurai mis pauvre école à pauvre profit, j'apprendrai d'un solitaire à vivre caché et d'un loup quinquagénaire à me taire.
Si j'ai appris à écrire, c'est que j'ai souvent lu dans les feuilles de chêne ou les plumes de pan.
Mais de mes années d'école, je n'ai rien gardé. Ce n'était que des paroles pour cacher l'été.
La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Nous venons d'entendre que l'école buissonnière est peut-être plus instructive que l'école. Le témoignage de Annie, collègue de physique de Madame Bressolette, souligne combien le contenu qui concerne l'instruction est lié au témoignage de l'enseignant quant à l'éducation. Qu'en est-il dans la pensée de Jacques Maritain ? Ces deux dimensions trouvent-elles un écho dans sa philosophie de l'éducation ? Oui, Maritain trouve qu'il est malheureux, l'adolescent qui ne connaît pas les plaisirs de l'esprit. Voici comment il le conçoit. Afin de parvenir pleinement à son but, la réforme nécessaire doit comprendre que, pour faire un bon citoyen et un homme civilisé, ce qui importe avant tout, c'est le centre intérieur, la source vivante de la conscience personnelle, où prennent naissance à la fois l'idéalisme et la générosité, le sens de la loi et le sens de l'amitié, le respect d'autrui, et en même temps une indépendance fermement enracinée à l'égard de l'opinion commune. Il nous faut également comprendre que sans la vision par l'idée, sans le pouvoir abstractif et la lumière de l'intelligence, les expériences les plus frappantes ne sont d'aucune utilité pour l'homme, pas plus que de belles couleurs dans l'obscurité, et que le meilleur moyen de n'être pas livresque est d'éviter, comme la peste, les manuels et les textbooks, même les manuels de connaissances expérimentales, mais de lire les livres, je dis de lire les livres avec passion et avidité. Il nous faut comprendre enfin, d'une manière plus générale, que la recherche de la vie concrète devient un leurre si elle disperse l'attention de l'homme ou de l'enfant parmi les futilités pratiques. Les recettes psychotechniques et l'infinité des activités utilitaires au mépris de la vie concrète authentique de l'intelligence et de l'âme. Le sens de la réalité concrète est émoussé par l'utilitarisme. Il se développe et fleurit par le moyen de ces activités dont la vie humaine a d'autant plus besoin qu'elles ne sont au service d'aucune utilité pratique, parce qu'elles sont en elles-mêmes liberté, fruit et joie. Malheureux l'adolescent qui ne connaît pas les plaisirs de l'esprit et n'est pas exalté par la joie de connaître et la joie de la beauté, par l'enthousiasme des idées et par l'expérience vivifiante des premières amours, délices et exultations de luxe, de la sagesse et de la poésie. La fatigue et l'ennui des affaires humaines viendront assez vite en vérité. Être chargé de leurs soucis est le métier de l'adulte. Joie que cette découverte de la beauté, de la sagesse, de l'éthique à travers une attention, une intériorisation dans le livre, dans la lecture. Victor Hugo rejoint ici les témoignages d'école buissonnière. Pourquoi l'école buissonnière a-t-elle tant de prix ? Parce que l'élève s'éduque lui-même dans cette intériorité parce qu'il est seul. Très souvent, l'école buissonnière se vit dans la nature et dans la solitude. Ce n'est donc pas un cri contre l'école, mais un cri contre une fausseté d'éducation qui serait une dispersion. Le deuxième point souligné dans le témoignage, c'était finalement l'humanité, cette formation générale, indispensable, avant la spécialisation. Si la physique et les mathématiques, comme dit Gilles de Gennes, doivent être enseignées plus tard, et Gilles de Gennes trouvait que c'était une hérésie que de pousser tous ses élèves adolescents dans les sections scientifiques alors qu'ils n'en feraient plus rien après. Il valait mieux exercer la finesse de la raison, du jugement et de l'analyse sur une pièce de Racine, voir la psychologie de Bérénice en face de Titus, plutôt que sur des intégrales de mathématiques. En ce sens, Maritain rejoint ce constat. Et voici ce qu'il rappelle à propos de la spécialisation dans l'éducation. L'intellectualisme revêt deux formes principales. Une certaine forme d'intellectualisme cherche les suprêmes accomplissements de l'éducation dans la pure habileté dialectique ou rhétorique. Tel était le cas de la pédagogie classique, en particulier à l'école bourgeoise, où l'éducation restait un privilège des classes privilégiées. Une seconde forme d'intellectualisme moderne, celle-ci, abandonne les valeurs universelles et insiste sur les fonctions pratiques et ouvrières de l'intelligence. Elle cherche les suprêmes accomplissements de l'éducation dans la spécialisation scientifique et technique. Et certes, la spécialisation est rendue de plus en plus nécessaire par l'organisation technique de la vie moderne. Cependant, elle devrait être compensée, surtout pendant les années de jeunesse, par une formation générale d'autant plus vigoureuse. Si nous nous rappelons que l'animal est un spécialiste, et un spécialiste parfait, tout son pouvoir de connaître étant fixé sur une certaine tâche particulière à exécuter, nous devrons conclure qu'un programme d'éducation qui ne viserait qu'à former des spécialistes toujours plus parfaits, en des domaines toujours plus spécialisés et incapables de porter un jugement sur n'importe quelle matière située au-delà du champ de leurs compétences spécialisées, conduirait, à vrai dire, à une animalisation progressive de l'esprit et de la vie humaine. Finalement, de même que la vie des abeilles consiste à produire du miel, de même la vie réelle de l'homme consisterait à produire, chacun bien fixé dans son alvéole, des valeurs économiques et des découvertes scientifiques, tandis que quelque chétif plaisir ou quelque divertissement social occuperait ses heures de loisir, et qu'un vague sentiment religieux, sans nul contenu de pensée et de réalité, rendrait l'existence un petit peu moins plate, peut-être un peu plus dramatique et un peu plus stimulante, comme dans un heureux rêve. Le culte accablant de la spécialisation déshumanise la vie humaine. Heureusement, nulle part dans le monde, aucun système d'éducation ne s'est-il encore établi sur cette unique base. Mais s'il existe partout une tendance vers une telle conception de l'éducation, en conséquence d'une philosophie matérialiste de la vie plus ou moins consciemment acceptée, c'est bien triste. Cela même représente un grand péril pour les démocraties, parce que l'idéal démocratique exige plus qu'aucune autre la foi en les énergies spirituelles et le développement de ces énergies, dont le domaine s'élève très au-dessus de toute spécialisation, et parce qu'une complète division de l'esprit humain et des activités humaines en compartiments spécialisés rendrait impossible tout gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Comment l'homme ordinaire, le common man, pourrait-il être capable de juger du bien du peuple s'il ne se sentait capable de porter un jugement que dans le champ particulier de sa propre compétence professionnelle ? L'activité politique et le jugement politique deviendraient l'apanage des experts spécialisés dans ce domaine, sorte de technocratie d'État qui n'ouvre pas des perspectives particulièrement fortunées pour le bien du peuple ni pour la liberté. Quant à l'éducation, complétée par les règles impératives de quelques systèmes d'orientation professionnelle, elle deviendrait le processus de différenciation des abeilles dans la ruche humaine. En réalité, la conception démocratique de la vie demande primordialement une éducation libérale pour tous et un développement humaniste général dans l'ensemble de la société. Même en ce qui concerne le succès des activités industrielles, l'ingéniosité naturelle de l'homme fortifiée par une éducation qui libère et élargit l'esprit est de plus grande importance que la spécialisation technique, car de ces libres ressources de l'intelligence humaine surgit naturellement chez les chefs d'entreprise et chez les ouvriers, le pouvoir de s'adapter à des circonstances nouvelles et de les maîtriser. Ces pages, extraites de Pour une philosophie de l'éducation, permettent de conjoindre la finalité de l'éducation. Il s'agit de faire non seulement un bon citoyen, mais un homme, car les deux ressortent du même point nodal, qui est le soi profond, celui de l'intériorité, et qui est développé dans une anthropologie de Maritain que nous verrons juste après ces quelques témoignages.
Aux penseurs, à tous les précurseurs, à Jean Massé, des hymnes et des fleurs. Ils ont lutté pour l'humanité, pour l'avenir d'une cité fraternelle. Ils ont lutté pour l'humanité, pour l'avenir et pour la liberté. Aux penseurs, etc., etc. Voilà ce que nous avions appris, c'est quelque chose qui a marqué ça aussi.
Et qui a marqué pourquoi,
la chanson à Jean Massé, c'était au moment, n'est-ce pas, où il y avait peut-être séparation de l'Église et de l'État, ou bien l'école laïque d'un côté, l'école privée de l'autre.
Ça se passait en 1905, ça.
Une anthropologie, oui, une anthropologie pour l'éducation. et qui repose sur deux inconscients, le subconscient ou l'inconscient. Et voici ce que Maritain écrit. Le mot subconscient ou inconscient couvre deux domaines complètement différents, bien qu'entremêlés l'un à l'autre. Le premier est ce champ que l'école freudienne a exploré avec un zèle particulier, le champ des instincts, des images latentes, des impulsions affectives et des tendances de la vie sensitive. Champ qui devrait être appelé l'inconscient de l'irrationnel dans l'homme. L'autre, négligé par les freudiens, est le champ de la vie des pouvoirs spirituels, l'intelligence et la volonté prises en ses racines, l'abîme sans fond de la liberté personnelle et de la soif de l'esprit qui lutte et fait effort pour connaître et pour voir, pour saisir et pour exprimer. C'est ce que j'appellerais le préconscient de l'esprit dans l'homme. Car la raison ne consiste pas seulement en ses outils et ses manifestations logiques et conscientes, et la volonté non plus ne consiste pas seulement en ses décisions délibérées et conscientes. Bien loin au-dessous de la surface apparente des concepts et des jugements explicites, des mots et des résolutions exprimées et des mouvements conscients de la volonté sont les sources de la connaissance et de la poésie, de l'amour et des désirs véritablement humains, cachés dans l'obscurité spirituelle de la vitalité intime de l'âme. Avant de prendre forme et de s'exprimer en concept et en jugement, la connaissance intellectuelle est d'abord un commencement de perception encore informulée qui procède du choc de l'activité illuminatrice de l'intellect sur le monde des images et des émotions et qui n'est qu'un mouvement humble et tremblant mais inestimable vers un contenu intelligible à saisir. Par parenthèse, c'est par rapport à ce dynamisme spirituel préconscient de la personnalité humaine qu'il est d'une si capitale importance pour le maître de garder un contact personnel avec l'élève. Il ne s'agit pas seulement d'avoir là une meilleure technique pour rendre l'étude plus attrayante et plus stimulante. Il s'agit avant tout de donner à cette mystérieuse identité de l'âme de l'enfant, qui lui est inconnue à lui-même et qu'aucune technique ne peut atteindre, l'assurance réconfortante d'être en quelque façon reconnue par un regard attentif, humain et personnel, inexprimable lui aussi en concepts et en mots. Ces lignes de l'éducation à la croisée des chemins montrent combien le rapport personnel, la relation de maître à élève reste fondamentale en présentiel, comme on dit maintenant, parce que tout passe par l'indicible, le geste, le témoignage, le regard, la manière d'être, cette manière, ce style d'être au monde dont parle Maurice Merleau-Ponty. Qu'en est-il maintenant en aval de cette éducation ? En amont, nous sommes allés très loin dans cette intériorité de l'homme qui repose sur une anthropologie. Et en aval, dans notre civilisation, quel est l'arrière-fond profond de l'Europe ? De notre civilisation occidentale. Pour Maritain, il reste théologique. Et c'est encore, finalement, une autre lecture de l'éducation sur laquelle j'aimerais terminer avant de donner la parole à Michel Bressolette sur un texte qu'il a écrit dans les années 2008, juste avant sa mort, à propos de l'école et de ce qu'il voit dans le système universitaire ou même dans le secondaire, dans la préparation du baccalauréat. Il écrivait déjà un texte où il tirait la sonnette d'alarme par rapport à cet oubli du silence intérieur, de l'oralité, de la poésie. Et c'est un texte qui nous permettra de conclure sur cette dimension théologique de l'éducation et de la civilisation occidentale. Maritain écrit « En fait, les problèmes et les controverses théologiques ont imprégné le développement entier de la culture et de la civilisation occidentale et sont encore à l'œuvre dans ses profondeurs, de telle sorte que celui qui prendrait le parti de les ignorer serait foncièrement incapable de comprendre son propre temps et la signification de ses conflits internes. Ainsi démuni, il serait comme un enfant barbare et désarmé, errant, parmi l'incompréhensible bizarrerie des arbres, des fontaines, des statues, des jardins, des ruines et des édifices encore en construction du vieux parc de la civilisation. la philosophie moderne elle-même, de Descartes à Hegel, reste énigmatique sans cela. Car en fait, la philosophie s'est chargée elle-même, tout le long des temps modernes, de problèmes et d'inquiétudes dont elle a dépossédé la théologie, de sorte que l'avènement culturel d'une philosophie purement philosophique est une chose qu'on attend encore. Dans la vie culturelle du Moyen-Âge, la philosophie était au service de la théologie, ou plutôt était enveloppée en elle. Dans la vie culturelle des temps modernes, elle n'a été qu'une théologie sécularisée. Ainsi, personne ne peut se passer de la théologie, au moins d'une théologie larvée et inconsciente, et la meilleure manière d'éviter les inconvénients d'une théologie subrepticement insinuée est d'avoir affaire à une théologie qui a clairement conscience d'elle-même. Et l'éducation libérale ne peut pas compléter son œuvre sans la connaissance du domaine spécifique et des soucis propres de la sagesse théologique. En effet, ni Dante, ni Cervantes, ni Rabelais, ni Shakespeare, ni John Donne, ni William Blake, ni même Oscar Wilde ou Lawrence, ni Giotto, ni Michel-Ange, ni Le Greco, ni Zurbaran, ni Pascal, ni Rousseau, ni Madison, ni Jefferson, ni Edgar Poe, ni Baudelaire, ni Goethe, ni Nietzsche, ni même Karl Marx, ni Tolstoï, ni Dostoïevski ne peuvent être réellement compris sans un arrière-fond sérieux théologique.
La préparation du baccalauréat de français ne vise plus la formation de l'élève, mais l'acquisition d'outils pour décortiquer un texte. Peu importe la finalité de l'œuvre d'art, donnée à penser, seule compte la capacité de l'élève à défabriquer le texte. Veut-on vérifier les connaissances de l'histoire des idées, voilà qu'on se heurte à la confusion totale. Louis XIV en plein XVIe et Ronsard fin XIXe. On finit par se rabattre sur la capacité argumentative de l'élève. C'est un résumé de toutes les idées reçues sans hiérarchie. Les raisons de cet état de délabrement, l'oubli fondamental que le français est la dernière discipline artistique enseignée en lycée. Un texte donne à penser parce qu'il est œuvre d'art avant tout. Hugo, Baudelaire et Malraux ont écrit sous l'effet de la poussée créatrice. Comment aborder l'œuvre d'art ? Telle est la question fondatrice d'une réelle pédagogie à la découverte de l'océan de la littérature que représente l'entrée au lycée. Tout simplement par le silence. Silence de la haute mer intérieure, solitude profonde pour rencontrer une parole autre. Or, depuis l'école maternelle, tout pousse à la sortie de soi dans le bruit et la dispersion. Pour favoriser l'expression créatrice de l'enfant, la classe est divisée en plusieurs espaces, marquée par des productions multiples, accrochées aux vitres ou à des fils qui zèbrent la salle. Tout juste si cette bigarrure multiforme ne vous provoque pas un violent mal de tête. Au collège, apprentissage de la prise de notes, de quoi ne plus reconnaître son cours réduit à deux lignes bourrées de fautes sur une feuille volante écornée. Au lycée, le zapping est suffisamment ancré pour qu'il soit devenu quasiment impossible de demander à un élève de se concentrer plus d'un quart d'heure. Sa vie privée l'accapare au point de le rendre esclave puisqu'à la porte de la classe franchie, il se précipite sur son portable ou sur son MP3. Le remède à ce mal social planétaire ? L'œuvre d'art pour elle-même et non pour rehausser le hall d'une banque ou d'une compagnie d'assurance. L'œuvre d'art comme seule dissidence dans le monde du « moi d'abord », du bruit de soi, du fracas frénétique universel. La littérature offerte dans nos lycées comme matière noble et essentielle parce qu'elle fait respirer l'homme. Que faire ? L'apologie de l'oralité et de la copie manuscrite parfaite. Par oralité, j'entends des cours sans notes de la part du professeur, sans prise de notes de la part de l'élève. Le soir, chez lui, l'élève, sur un cahier, transcrit ce qu'il a retenu du cours. La poésie est présente à tous les débuts de cours pour le pur plaisir. Et la copie doit devenir elle-même une œuvre d'art, car elle est une fête où se noue la triple rencontre entre l'élève, le professeur et la littérature. Qui sont les derniers insurgés, sinon ceux qui, dans l'ombre, œuvrent courageusement dans ce sens ? Ils sont là tels des fanaux dans la nuit sur l'océan et leur combat a d'autant plus de prix qu'il est silencieux, tenace et toujours recommencé. Trois vertus qui ne sont pas sans évoquer trois autres, théologales, dont la plus grande selon Peggy est la petite espérance, encadrée par ses deux grandes sœurs. Michel Bressolette. tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolus, tant que dans certaines régions l'asphyxie sociale sera possible. En d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles.